Bonsoir à tous. Donc, dimanche 5 février aujourd'hui, nous recevons avec plaisir Alexandre Latsa, qui est un Français expatrié en Russie, qui est un blogueur, auteur de nombreux articles sur le panorama politique et culturel en Russie. Donc, je ne le présente pas davantage, puisque une partie de ce début de conférence va être consacrée à une présentation par lui-même, d'Alexandre Latsa. Donc, je lui laisse la parole pour cette conférence.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc bonsoir aux auditeurs. Alors effectivement, donc je suis français installé en Russie. Alors je n'aime pas trop le terme expatrié, parce que généralement l'expatrié c'est le français qui est envoyé en Russie pour travailler par une société, qui passe quelques années, qui travaille, qui a un statut d'étranger un peu prestigieux et qui après repart ailleurs. Moi c'est pas mon cas. Donc j'ai 34 ans. Je réside en Russie de façon permanente depuis 4 ans. J'ai déménagé en Russie pour des raisons personnelles et politiques, on va dire, puisque j'avais envie d'aller habiter chez Poutine. J'ai grandi en Afrique, je fais ma scolarité au lycée français de la ville de Pointe-Noire au Congo en Afrique centrale. Après, j'ai étudié le droit à Bordeaux et les langues slaves, le serbe. Je me suis énormément impliqué dans l'humanitaire pour la Serbie, en fait, en 99, après la guerre contre le régime de Milosevic, mais voilà, donc j'ai appris le serbe et j'ai fait beaucoup d'humanitaire. Ensuite, voilà, j'ai travaillé en France plusieurs années, mais j'ai choisi de déménager en Russie parce que l'opportunité se présentait. Donc en Russie, mes activités sont doubles. La première, c'est que je travaille comme passeur de tête, c'est-à-dire que je travaille dans les ressources humaines à Moscou pour un cabinet. Travaillant principalement pour les plus grosses sociétés françaises installées en Russie. Et deuxième partie de mon activité, on va dire, en Russie, c'est je suis donc journaliste pour l'agence de presse russe d'État RIA Novosti. Voilà, et je tiens le site Dissonance, destiné à donner un autre regard sur la Russie, qui traite principalement de sujets comme la géopolitique de l'Eurasie, la démographie en Russie et en Eurasie, et les rapports militaires et géopolitiques avec l'Est. Voilà, donc à côté de ça, je tiens une chronique hebdomadaire pour l'agence de presse RIA Novosti. Je travaille pour l'Institut Iris de Pascal Boniface, pour lequel je rédige des analyses sur la Russie. La première était sur la démographie, la seconde sur la scène politique russe devrait être disponible le mois prochain. Voilà, et puis je travaille pour d'autres instituts russes et italiens, l'Institut Eurasia Rivista en Italie, l'Institut Intellectual Network en Russie, des instituts géopolitiques et qui font écrire en fait des gens qui ont des visions géopolitiques un petit peu dissonantes. Voilà donc ce qui est mon cas. Voilà donc je ne suis pas expatrié, je suis résident en Russie. Je travaille en Russie et vis en Russie. Ma compagne est russe, donc mon épouse est russe. Donc voilà, je me considère comme un Français, mais je n'exclus pas de passer le reste de ma vie en Russie en fait.
Très bien, alors excusez-moi d'abord d'avoir
pas de soucis. Ce terme. Ça c'est clair.
Sans aucune attention maligne de ma part. En tout cas, voilà, alors je vous ai donc transmis des questions au préalable donc, qui servent de cadre à l'entretien, mais vous connaissez évidemment ces thèmes sur le bout des doigts. Alors la première question que je souhaiterais vous poser, c'est à propos d'un article que vous avez écrit qui s'appelle « Réflexion sur la révolution des neiges en Russie », donc à propos des élections législatives récentes. Où la Russie, selon vous, et le parti de Vladimir Poutine, la Russie unie, a subi une déstabilisation. Alors, pourriez-vous résumer, on va dire, l'origine de ce que vous appelez cette donc tentative de déstabilisation de la Russie?
Oui, bien sûr. En fait, c'est la tentative de révolution des neiges en Russie, qui a commencé, qui est en cours, mais qui devrait échouer, à mon avis, fait partie d'un processus beaucoup plus long et beaucoup plus large. C'est un processus géopolitique qui a commencé après la chute de l'URSS, en fait, et c'est un processus d'extension vers l'Est du système géopolitique, politique, militaire et économique occidental, donc ce qu'on appelle la matrice occidentale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, les pays de l'Europe de l'Ouest, l'Union européenne aujourd'hui, voilà, donc d'autres pays comme le Japon, la Turquie en font partie pour des raisons un petit peu pratiques, hein, la Turquie à travers l'OTAN et le Japon parce que c'est le pays vaincu qui ne s'est pas relevé. Donc en fait, cette matrice occidentale qui domine le monde et qui est dominée elle-même par l'Amérique, qui en est son cœur, a entamé une politique d'extension de l'Ouest vers l'Est, vers l'Eurasie, Et cette action s'est faite tant par des guerres, on pense à la guerre en Serbie en 99, que par le démantèlement d'État, la Tchécoslovaquie ou encore l'ex-Yougoslavie, et sinon par des nouvelles techniques, on va dire, de révolution, qui sont les révolutions de couleur. Révolutions de couleur qui ont frappé la plupart des États, qui étaient des États, on va dire, proches ou alliés de la Russie. L'Ukraine, la Géorgie, la Serbie, Kirghizistan a été visé, etc. Donc, en fait, ces révolutions de couleur font partie d'un dispositif d'extension de l'Ouest vers l'Est, dirigé, financé par l'Amérique. On parlera des modes de financement qui sont très clairs et publics. Et en fait, le but est de renverser des États qui sont hostiles à ce système occidental et qui pourraient être jugés comme des alliés directs ou indirects de la Russie. Par conséquent, les États qui ont été victimes de révolutions, qui ont subi des révolutions de couleur, ont été neutralisés. Et aujourd'hui, il reste un énorme État qui n'a pas été neutralisé, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Pour deux raisons. La première, c'est que la Russie post-soviétique était en total effondrement, et l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en mars 2000 a mis un coup d'arrêt à cet effondrement. Et au contraire, la Russie, depuis 12 ans, se rétablit, se renforce économiquement, militairement, humainement, politiquement. Elle redevient un acteur politique, géopolitique, régional et mondial. Et par conséquent, elle se pose comme une espèce de mur infranchissable pour cette vague occidentale qui avance vers l'Est. Et cette vague occidentale a un objectif, c'est l'accès à l'Eurasie. Il y a des très anciennes théories géopolitiques anglo-saxonnes qui expliquaient qu'il fallait être en Eurasie, le Heartland étant l'Eurasie, pour contrôler le monde. En Eurasie, puisque c'est l'Eurasie. Alors, ce qu'on appelle l'Eurasie, c'est la plateforme Sibérie et les débouchés vers l'Asie centrale. En fait, c'est l'endroit où il y a les réserves naturelles, évidemment, de pétrole, de gaz. C'est l'accès sur les mers, c'est l'accès au Pacifique par l'Atlantique. Donc, c'est un peu la zone clé pour dominer la planète. Donc, le rétablissement russe, en fait, porte un coup d'arrêt à cette extension américaine, ce dispositif américain vers l'Eurasie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une pression très très forte américaine sur la Russie pour tenter de déstabiliser le régime de Poutine qui est pour eux vraiment un mur infranchissable. Et c'est pour ça qu'il y a une tentative, elle est en cours, de révolution de couleur soft, une révolution des neiges, comme elle a été appelée, pour tenter finalement de politiquement et socialement déstabiliser la Russie, empêcher Vladimir Poutine de se présenter sereinement à l'élection présidentielle, d'être élu, et suite aux élections législatives qui ont eu lieu le 4 décembre dernier, où le parti Russie Unie, donc de Vladimir Poutine, a obtenu quasiment la majorité. Si vous voulez, si l'élection présidentielle devait se passer correctement, Poutine serait élu. Et donc là, pour 6-7 ans, le pouvoir est complètement dans les mains de Poutine et de Russie Unie. Et par conséquent, on peut imaginer que les immenses projets géopolitiques comme l'Union Eurasiatique qu'il a lancé devraient avancer. Et ça pose un énorme problème à l'Amérique, surtout qu'elle est face à une crise économique et financière terrible. Elle est aux abois. Donc, c'est la fuite en avant qui est la seule solution pour les stratèges géopolitiques américains et du Pentagone. Et le rétablissement russe, qui est symbolisé pour eux par Poutine, reste un énorme obstacle à la prise de contrôle, en fait, du Heartland par l'Amérique.
Très bien. Alors là, vous avez resitué effectivement cette déstabilisation, comment dire, donc du parti poutinien lors des dernières élections. Vous avez resitué ça dans un cadre beaucoup plus vaste, donc ça permet de, bien sûr, de beaucoup mieux comprendre la chose. Alors sur le détail, disons des élections législatives, on a parlé effectivement, on a parlé dans les médias occidentaux de fraudes massives qui auraient eu lieu. Et justement, le conditionnel n'a quasiment jamais été employé, hein, c'était de façon affirmative. Il a toujours été dit, effectivement, il y a eu des fraudes massives et les gens manifestent massivement puisque les fraudes ont été elles-mêmes massives. Alors, je sais que dans cet article, par exemple, Réflexion sur la révolution des neiges, vous avez critiqué ce fait, enfin, et que vous avez dit qu'il n'était pas du tout certain que les élections aient été truquées. Alors, pouvez-vous revenir un petit peu là-dessus, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. La chose importante, c'est que les élections. Alors, déjà, je pense que la Russie est un pays très jeune. Hein, c'est la Fédération de Russie est née des cendres de l'URSS en 91. Donc, c'est un pays qui s'est. Il faut bien le voir de façon globale. C'est un pays qui s'est doucement, enfin doucement, rapidement, au sens historique, reconstitué. Mais la reconstitution n'est pas terminée. Si vous voulez, à l'époque où Poutine a pris le pouvoir, il y avait des baronnies régionales. Dirigés où les élus étaient des hommes d'affaires qualité plus ou moins élevée, mais des hommes qui étaient dans le business et qui étaient aux commandes des régions. Lorsque Russie Unie s'est constituée pour devenir un parti de gouvernance, tous ces élus responsables et potentats locaux ont été absorbés dans le parti, indépendamment de leur idéologie, indépendamment de leur façon de voir le monde, indépendamment de ce qu'ils pensaient, mais juste pour constituer une base de gouvernance avec des responsables locaux, régionaux, tous les échelons en fait hiérarchiques de la fédération. Par conséquent, bon, Russie Unie et s'est tout de suite imposé comme un parti majoritaire parce que c'était le parti de la direction, de la gouvernance et le parti disposant des ressources administratives. Il est évident que les élections en Russie après 91, en 96, en 98, ont été des élections avec beaucoup d'irrégularités. Il est quasiment impossible de savoir à quel niveau, mais on sait par exemple que 96, lors de la deuxième élection d'Eltsine, en fait, c'est le candidat communiste qui a gagné les élections et qu'en fait, sa victoire lui a été volée. Donc, je pense que toutes les élections russes, historiquement, ont été marquées par de très forts taux d'irrégularité à un niveau qu'il est difficile d'évaluer. Par contre, ce qui est certain, parce que le pays se modernise, parce que les lois sont appliquées de plus en plus, parce qu'il y a maintenant des observateurs étrangers, russes, d'opposition, etc., ce qui est certain, c'est qu'il y a de moins en moins d'irrégularités. Par conséquent, dans les dernières élections où il y avait une forte pression législative, on peut imaginer qu'il y ait des irrégularités. Moi, j'ai étudié les irrégularités relevées par les observateurs étrangers, russes ou par les gens de Russie Unie. Je pense qu'il y a eu des irrégularités à tous les niveaux dans certains bureaux de vote. Il y en a eu en France, l'ambassade de Russie en France, en Allemagne, etc., dans des bureaux de vote où pourtant le parti de Poutine n'a pas été majoritaire. Hein, c'est facile à regarder sur Internet, j'en ai parlé sur mon site. Par conséquent, ce que je crois, c'est qu'il y a sûrement eu des irrégularités, entre guillemets, à ces élections, mais elles ont été minoritaires et en aucun cas, moi je les estime à peu près 5% du résultat final. Je pense qu'en aucun cas, de toute façon, même si toute irrégularité avait été organisée, on va dire, par le parti de Vladimir Poutine Russie, en aucun cas ça n'aurait changé le résultat final, ni le pourcentage reçu par la plupart des grands partis. Par conséquent, irrégularité, il y en a sûrement eu, parce que vous avez des régions dans le Grand Nord russe, dans le fond de la Sibérie, où le bureau de vote, c'est un hélicoptère dans lequel les gens des petits villages autour sont amenés en motoneige. Ils vont dans une salle commune, il n'y a pas d'isoloir. On est dans un hélicoptère, on remplit des bulletins devant 50 personnes qui font la queue. Faut bien imaginer les conditions de vote aussi et les conditions géographiques du pays. Il y a des régions, vous avez des tribus nomades dans le Grand Nord qui peuvent être amenées à voter. Bon, vous les faites pas arriver en centre-ville et vous leur expliquez pas qu'on vote à l'isoloir. Ça les intéresse pas et ça marche pas comme ça. Par conséquent, la très grande variété de la Russie fait qu'il est très difficile d'avoir des process électoraux à la Suisse, c'est-à-dire très réguliers. Ce que je pense, c'est que de toute façon, ces élections ont été les plus justes de l'histoire russe. Et de toute façon, on voit bien que la forte baisse de Russie Unie, qui était tout à fait prévisible, elle ne traduit pas que les élections ont été truquées. On imagine mal un parti qui a tant de pouvoir se faire baisser de 20 points. C'est absolument incohérent. Donc voilà, ça c'est la première chose sur les élections elles-mêmes. Quant aux manifestations, non, c'est là les médias occidentaux et français, comme d'habitude, beaucoup de choses et souvent n'importe quoi. Il y a eu très peu de manifestations. En fait, il y a eu deux grosses manifestations à Saint-Pétersbourg et Moscou le 10 décembre, quelques petites manifestations en province à hauteur de 300-400 personnes par ville. On parle de villes d'un million d'habitants où il y a eu 400 personnes qui ont milité. Et donc, il n'y a eu de manifestations que dans ces deux grosses villes. Hier, qui était une énorme journée de manifestation, la manifestation des opposants à Vladimir Poutine a rassemblé encore 50, 60 000 personnes. Je rappelle que la Russie fait 143 millions d'habitants et Moscou 14 millions. Donc c'est minoritaire. En fait, c'est les manifestants à Moscou, ce sera le thème de ma prochaine tribune sur Ian Rosti, et je donne tous les chiffres des manifestants dans toutes les villes en comparatif des pros et des anti. Dans toutes les villes de Russie, les manifestants pour Poutine sont plus nombreux. Ce sont généralement des gens qui sont issus d'une classe sociale inférieure, c'est plutôt les ouvriers, c'est plutôt les petits salariés, donc c'est plutôt le pays réel. Et le gros des manifestants de la capitale Moscou et de Saint-Pétersbourg, ce sont des gens qu'on peut assimiler aux bobos en France, c'est-à-dire c'est la classe moyenne très supérieure russe, c'est des gens qui touchent 3 000, 4 000 euros par mois. Qui vivent bien, qui vont souvent en vacances à l'étranger, qui ont de bonnes conditions et qui restent persuadés que finalement le modèle occidental est le plus approprié. Donc ça concerne une minorité de la population russe, finalement. Cette hyperclasse, on va dire, moyenne supérieure urbaine des grandes villes, c'est pas la majorité du pays. Donc, c'est très inattendu en Russie que 50 000, 60 000 personnes défilent, mais en fait, ça représente très peu de choses à l'échelle du pays. Et surtout, ces manifestants sont dans une classe sociale très, 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 très facile à définir. Par conséquent, je pense que ça neutralise un petit peu l'argument de dire le peuple est dans la rue. Non, le peuple n'est pas dans la rue. Les gens qui défilent à Moscou contre Poutine, c'est pas le peuple. Le peuple a défilé une seule fois en Russie dans la rue, c'était hier pour Poutine. Il y a eu une immense manifestation justement pour Poutine qui a réuni plus de 120 ou 140 000 personnes. Et là, il suffit de voir les photos sur Internet et je les mettrai en ligne. On voit bien que ce sont des gens, c'est des gens normaux, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont à l'usine, c'est des gens qui ont des petits salaires et qui veulent pas de déstabilisation, qui veulent garder leur pouvoir actuel parce qu'ils ont l'impression que chaque année ça va un peu mieux. Ils partent de très bas mais qui sont un peu mieux payés chaque année, que chaque année les pensions des retraités augmentent, que chaque année on repeint les bâtiments, on refait une route, on met des places de parking. Donc même si les choses vont pas très très vite, ils savent que eux chaque année ça va mieux et ça fait depuis 2000 que ça va mieux chaque année. Donc par conséquent, ces gens-là ne veulent pas de changement brutal, ils ne veulent pas un retour aux années 90 et par conséquent ils seront sans doute prêts à mon avis à défendre physiquement le pays. En cas de troubles prolongés et de tentatives de révolution de couleur, je pense on pourrait arriver à des incidents très violents, mais je pense que ça n'arrivera pas, j'espère en tout cas. Donc tout ça pour synthétiser, c'est que je pense que ces élections étaient relativement justes. Je pense que les résultats électoraux correspondent bien aux grandes tendances politiques du pays. Moi, je parle avec des Russes, je travaille comme journaliste, je vois beaucoup de gens, j'écoute beaucoup de choses, je lis beaucoup, donc je suis bien à même d'avoir une vision là-dessus. Et je pense que les journalistes français sont vraiment, enfin, je travaille là-dessus énormément aussi, j'en connais beaucoup à Moscou. Les journalistes français sont totalement dans le faux. Ils vivent dans des cercles fermés, ils fréquentent toujours les mêmes gens, ils ont les mêmes informateurs russes qui sont des gens qui viennent tous des mêmes milieux. Généralement, c'est des milieux universitaires, intellectuels, et c'est absolument pas des gens du peuple. Par conséquent, ils ont une vision totalement faussée. Et la deuxième chose, c'est aussi les rédactions imposent à avoir des lignes de pensée dans les articles des journaux. Par conséquent, il faut dire ce qu'il faut dire. Hein. C'est-à-dire, il faut pas dire ce qui se passe, il faut dire ce qui va dans le sens de l'histoire entre guillemets. Et par conséquent, au jour d'aujourd'hui et suite aux manifestations d'hier, la situation la suivante, c'est que les plus grosses manifestations finalement étaient pour Poutine. Les manifestations d'opposition ne décollent pas en nombre, ça reste stable. C'est 60 000 trentenaires bobos qui ont des bons revenus et qui veulent se faire plaisir, c'est leur sortie du week-end, mais il n'y a absolument rien de sérieux ni fondé là-dessus. Et c'est très simple, il n'y a qu'à voir les partis politiques qui participent à ces mouvements d'opposition. Il y a tant des groupuscules d'extrême droite néo-nazis que des monarchistes, que des mouvements tiers-mondistes, que des skinheads d'extrême gauche et des antifascistes. Il y a des mouvements libéraux pro-américains, je veux dire, tout le monde est mélangé au milieu, tout le monde défile ensemble contre Poutine. Ça frise le ridicule. Et ça, très curieusement, quand vous avez des centaines de bras tendus, des slogans antisémites contre les orateurs d'opposition juifs, les journalistes français n'en parlent pas. Quand 200 mètres plus haut dans la manifestation, vous avez des ultra-radicaux d'extrême gauche qui appellent à la révolution. Les journalistes français n'en parlent pas. On vous présente les manifestants comme des gentils, comme des gentils démocrates et comme représentants du peuple, mais c'est pas du tout le cas en fait.
Très bien, merci de cette réponse. C'était justement ce à quoi je voulais en venir, c'est-à-dire l'opposition en Russie. Qui la représente? Quels sont les partis ou les personnes les plus importantes, à la fois les plus écoutées, les plus crédibles, et qui sont hostiles au régime poutinien? Alors, parce qu'en France, on a parlé à un moment donné, assez longtemps, du champion d'échecs, là,
Oui.
Gasparov. Mais bon, qu'il n'y ait pas beaucoup de voix, Alors, quels sont les partis les plus, à la fois les plus représentés et les plus écoutés, s'il vous plaît?
En fait, c'est très simple. Il faut voir la scène politique russe non pas comme une linéaire allant de gauche à droite, puisqu'en France, par exemple, on a l'extrême gauche, on a le centre, le Parti socialiste, après on a le centre droite, l'UMP, à droite, le Front national. Bon, on peut imaginer que c'est linéaire. Du moment où on se représente les choses comme ça. En Russie, c'est pas le cas. Il n'y a pas de linéarité, il y a un cercle central dans lequel il y a Russie unie. Ça, c'est la gouvernance. Autour du cercle central dans lequel se trouve Russie unie, il y a un cercle plus large, dans lequel il y a quelques partis qui participent à la gouvernance. Hein. Donc c'est le Parti communiste de Russie qui est le principal parti d'opposition. Ils ont des élus dans les régions, ils ont des villes, ils ont des voilà, ils gèrent le pays, ils contribuent à la gestion politique du pays. Ils représentent 20% on va dire des électeurs. Vous avez le Parti libéral-démocrate de Vladimir Jirinovski qui est un parti ultranationaliste qu'on pourrait assimiler au Front national en France. Il représente 15 à 18% des électeurs. Et vous avez un nouveau parti qu'on appelle Russie Juste, en fait, qui est une sorte de parti de centre-gauche nationaliste, étatique nationaliste. Voilà, donc ça, c'est ces trois partis qui, autour de Russie Unie, constituent le bloc de partis politiques qui gouvernent le pays. Autour, il y a un troisième cercle encore plus large dans lequel vous avez ce qu'on appelle les partis d'opposition, entre guillemets. C'est souvent des partis libéraux. Hein, donc, vous avez cité. Un des représentants, il y en a d'autres, hein, on pense à Boris Nemtsov, Kassianov et des gens comme ça, Grigory Yavlinsky. Donc là, vous avez des partis comme l'Union des forces de droite, le Parnasse, le mouvement Yabloko qui veut dire pomme, etc. Ce sont des partis qui représentent 3-4% des électeurs, on va dire, ensemble, hein, donc c'est très faible. Leurs leaders sont souvent des libéraux pro-occidentaux et pro-américains. À la chute de l'URSS et avant l'arrivée de Poutine, ils avaient 12, 15, 18% des voix. Et puis, évidemment, la difficulté des années 90 a fait réfléchir l'électeur russe moyen qui s'est dit, ben, finalement, ce modèle libéral ne nous convient pas du tout. Donc, leur poids électoral ne cesse de baisser. Aux dernières élections, ils ont fait 2%, je crois 2,5%, bon, c'est ridicule. Mais ils font des pointes de 12 ou 15% dans les grandes villes, Moscou et Saint-Pétersbourg. Et c'est exactement les électeurs de ces partis qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cette élite un petit peu pro-occidentale, assez riche, etc., qui défile, qui se fait des frayeurs. Donc ça, on va dire, c'est une facette de l'opposition. Après, vous avez des mouvements non politiques, enfin politiques, mais non représentés politiquement plutôt, d'extrême gauche, d'extrême droite, qui sont plutôt des mouvements de jeunesse, qui font des actions coup de poing. Hein, il y a le mouvement Nazbol, donc c'est rouge-brun. Il y a des mouvements d'extrême droite comme Rouski Obras, l'ex-DPNI qui a été interdit. Etc. Vous avez le Levy Front qui est le front de gauche, un mouvement antifa ultra-gauche. Donc tous ces mouvements ne présentent pas de candidats, ils ont des leaders charismatiques, et ils ont quelques centaines ou milliers de membres et ils font des actions. Ils étaient notamment lors des manifestations anti-Poutine de décembre et les manifestations de hier. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que la scène politique est extrêmement large, la scène politique russe est extrêmement large, mais si vous voulez, vous avez dans le cortège d'opposition qui est dans la rue aujourd'hui des gens qui sont totalement différents. Vous avez, je veux dire, hier j'observais la grande ligne passer. Bon, vous avez les libéraux devant, alors drapeau américain sur l'épaule, hein, je rigole pas. Derrière, vous avez l'extrême droite, dont on se demande ce qu'elle fait là, parce que finalement, quand on est un ultranationaliste, on ne défile pas derrière les Américains généralement. Derrière l'extrême droite, vous avez l'extrême gauche. Alors vous avez des skinheads d'extrême gauche. Derrière, vous avez le comité gay et lesbienne de Russie. Encore derrière, vous avez l'Union des travailleurs, du syndicat, je ne sais pas quoi. Donc, c'est une coalition totalement hétéroclite qui n'a aucun fondement. D'ailleurs, ils n'ont pas de programme commun, ils n'ont pas de projet commun. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est d'être contre Poutine, ce qui ne fait pas un programme. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que peu de gens savent, c'est que beaucoup de ces mouvements d'extrême droite, et beaucoup de ces mouvements libéraux ont des financements étrangers. Récemment, en Russie, à la veille de cette grande manifestation, les leaders libéraux d'opposition ont été tous reçus à l'ambassade américaine, et les vidéos qui sont sorties, elles sont sur mon blog. Par conséquent, ils ont été reçus par l'ambassadeur américain. Le leader, on va dire, des nationalistes modérés qui sont dans les rues, qui s'appelle Alexei Navalny, qui est un jeune blogueur de 35 ans, il a confirmé qu'il avait reçu des financements des ONG américaines Orange qui contribuent aux révolutions de couleur. Donc, toute cette opposition défile, mais elle est payée pour le faire. Et la grosse majorité des gens qui sont là, qui sont les jeunes, hein, c'est là, les gens qui sont payés sont des gens qui sont politiques, évidemment. La grosse majorité des jeunes qui vont dans la rue, eux, sont juste des naïfs. Ou des idiots manipulés, hein, c'est-à-dire que personne ne peut croire que les élections là ont été les plus truquées, ça a été les moins truquées, et tout le monde le sait très bien. Donc les gens qui vont dans la rue sont des agents inconscients ou des agents conscients. Et par conséquent, l'opposition réelle à Vladimir Poutine, elle est là. Elle est dans ces groupuscules minoritaires, pays de l'étranger, et qui ont un objectif, c'est de déstabiliser le pays, c'est-à-dire c'est de jouer sur les tensions ethniques, c'est de jouer sur l'organisation de manifestations pour pour créer de la tension et du désordre, c'est la seule chose qu'ils puissent faire parce que finalement, électoralement, ils ne peuvent pas émerger. Électoralement, le peuple vote pour Vladimir Poutine. J'ai deux choses très importantes à dire aussi. La première, c'est que Russie unie n'est pas quelque chose de fixe. J'ai expliqué tout à l'heure que Russie unie avait à une époque, lors de sa constitution, récupéré un tas d'élus locaux, tout un tas d'hommes politiques puissants pour avoir les relais locaux, les relais régionaux et les manettes de contrôle du pays. Mais le parti est extrêmement diversifié. Hein, c'est pas du tout comme le PS ou l'UMP en France, Russie unie. Il y a des très grands courants de pensée, plus ou moins libéraux, plus ou moins étatistes, plus ou moins nationalistes, plus ou moins patriotes, plus ou moins conservateurs, etc. C'est quelque chose de très varié. Et c'est uniquement en décembre 2009 que le parti s'est défini une ligne idéologique qui est le conservatisme. Jusque-là, pendant 9 ans, imaginez, le parti a gouverné sans aucune idéologie. Pendant 9 ans, il y avait uniquement la reconstruction de l'État. C'est-à-dire reprendre le contrôle, faire payer les impôts aux gens, payer les salaires des employés de l'État, etc. Donc, c'est seulement il y a 2 ans que le parti a défini une idéologie qui est le conservatisme. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'hier, il y a eu une très très grosse manifestation pour Poutine, j'en ai parlé. Les leaders, les gens qui ont organisé et qui ont parlé à cette manifestation sont des gens qui sont des intellectuels et journalistes que l'on peut qualifier de plutôt proches de la scène eurasienne, hein, ce sont plutôt des gens proches du mouvement eurasien. Alexandre Douguine a parlé, Mikhail Leontiev aussi, l'intellectuel Nikolai Starikov, qui est un patriote russe, a parlé. Donc, on dirait que est en train de se constituer autour de Poutine une espèce de front commun de différents réseaux patriotiques, eurasiens, pas eurasiens. Il y a aussi Dimitri Rogozine, qui est un nationaliste connu en Russie, qui a appelé à soutenir Poutine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un immense bloc patriotique est en train de se constituer autour de Vladimir Poutine en vue de l'élection présidentielle du 4 mars. Donc ces gens-là, qui n'étaient pas très proches de Medvedev, qui étaient un petit peu éloignés donc du pouvoir, se sont récemment rapprochés du pouvoir en vue de l'élection de Vladimir Poutine. Ça permet d'imaginer un petit peu, si Poutine est élu, les grandes lignes politiques directrices en fait, qui vont être les siennes quand il sera au pouvoir.
Très bien, merci beaucoup de ce panorama très complet de la politique russe. Alors, ce que je voulais savoir, ce que sans doute beaucoup d'auditeurs veulent savoir, c'est quel est le rôle effectif des gens qu'on appelle les oligarques, puisque dans certains médias français, notamment M6, on apprenait, enfin, soi-disant, que Poutine serait un vendu au régime, enfin, plutôt à la puissance des oligarques qui tirent leur puissance de l'économie, de la finance. D'autres, évidemment, affirment que Poutine a mis au pas plutôt les oligarques, notamment Mikhail Khodorkovsky, qui était envoyé en Sibérie. Donc, on aurait aimé savoir quel est le rôle, selon vous, que jouent les oligarques dans l'économie et dans la politique russe. Merci.
Alors, déjà, Khodorkovsky n'est plus en Sibérie, il est en Carélie. Dans le Grand Nord russe, ils l'ont changé de prison. D'expérience, la Carélie, c'est beaucoup mieux que la Sibérie. C'est beaucoup plus facile à vivre. Donc, ils l'ont géographiquement, ils l'ont rapproché de la frontière finlandaise. Alors, pour les oligarques, en fait, je crois qu'il faut bien différencier deux choses. Oligarque, homme riche, et oligarque, homme politique. C'est-à-dire que dans le début du premier mandat Poutine, en 2000, 2001, jusqu'à 2004, hein, jusqu'à l'arrestation de Khodorkovsky, il y avait tous ces hommes politiques très puissants, hein, cette famille, ces 6 à 10 oligarques qui étaient autour de Eltsine et qui dirigeaient le pays, on va dire, dirigeaient le pays dans le sens où ça pouvait leur apporter plus d'argent. Effectivement, Poutine les a mis au pas. Il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été chassés du pays. Berezovsky est en exil, Khodorkovsky en prison, vous l'avez dit. Il y en a d'autres qui sont partis en Israël. Voilà. Donc il y a une espèce de ménage, on va dire, fait par Poutine, au sens la politique c'est moi, le business c'est vous, mais je ne veux pas vous entendre. Par exemple, Roman Abramovitch, un oligarque aussi, est resté. Il est dans le cercle Poutine. Il finance des projets dans les villes de Russie, hein. Par exemple, on parlait de la Carélie, il a fait construire des immenses complexes sportifs dans la capitale de la Carélie, Petrozavodsk. Donc, il faut bien différencier l'oligarque qui a été chassé pour des raisons politiques et qui donc ne peut plus exercer économiquement et gagner de l'argent en Russie, différencier de l'oligarque qui a accepté de ne plus faire de politique et qui est donc resté en Russie et dont l'argent sert un petit peu à développer des projets, des infrastructures. Ça, c'est la scission qu'il faut faire. Ensuite, il y a quand même des hommes très riches en Russie qui sont des hommes d'État, hein, qui sont des hommes de service d'État, de service de sécurité ou de service de force, qu'on appelle les siloviki. Ce sont des gens qui sont à la tête de très grosses corporations d'État. Ce sont des oligarques, entre guillemets, ils sont très riches, mais politiquement, ils sont très radicaux. Donc ce sont plutôt des gens qui soutiennent Poutine par principe, qui sont très satisfaits finalement de l'arrivée de Poutine. Donc je ne crois pas trop au Poutine vendu, puisqu'il en a fait assez pour prouver qu'il n'était pas. Maintenant, il est évident qu'il est dans l'intérêt de Poutine et de la Russie que les hommes d'affaires riches ou que les milliardaires ne quittent pas le pays, n'utilisent pas leur argent pour déstabiliser le pays, mais au contraire, utilisent leur argent dans le pays pour le pays. Donc par conséquent, il y a toujours un équilibre instable, politique et économique à avoir, et c'est très difficile à manager. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie de Poutine vendu. Je pense que tout ce qui se dit sur Poutine à l'Ouest est totalement faux, que les gens ne savent pas de quoi ils parlent, et surtout les journalistes. Et je crois que la Russie est un pays où il y a énormément de milliardaires et de millionnaires. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent en Russie, et donc ils n'ont aucune raison valable de se fâcher avec l'État, puisque c'est avec cet État-là qu'ils font de l'argent. La plupart des oligarques aujourd'hui, des gens qui s'enrichissent, n'ont pas de raison d'être fâchés avec Poutine. Ils peuvent regretter les années 90 où on s'enrichissait beaucoup plus vite, hein, ça c'est quelque chose. Mais du moment qu'ils peuvent continuer à s'enrichir, on va dire, sous Poutine, ils n'ont aucune raison de se fâcher avec Poutine.
Très bien, merci beaucoup de votre réponse. Alors, cela m'amène à une question de politique intérieure, puisqu'on parle du bilan de Poutine que vous avez décrit de façon positive. Donc, semble-t-il, hein, d'après bon, les informations que j'ai, il existe quand même deux problèmes à la politique intérieure russe. C'est d'un côté la démographie et la natalité, et de l'autre l'agriculture. Alors, bon, là encore, c'est d'après ce que j'ai trouvé. Donc, est-ce que ces problèmes, c'est vrai qu'ils existent, donc, sont en voie d'être résolus? Merci.
Alors, pour rigoler, on dit en russe qu'il y a deux problèmes, les routes et les cons. Donc, concernant les routes, oui, moi je roule en Russie, je confirme que le réseau routier est bon à certains endroits et très mauvais à d'autres, mais bon, il y a une amélioration. Pour l'agriculture, bah écoutez, oui, tout est à refaire, tout s'est effondré à la chute de l'URSS. La Russie, qui est un grand pays, bah, il suffit de regarder une carte, importe encore de la viande, vous imaginez. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui en jumelage avec des pays européens et non européens pour développer l'agriculture russe, pour utiliser l'espace et disponible en Russie. Et bon, c'est des choses qui prennent énormément de temps. C'est des choses qui nécessitent des investissements. Pour les investissements, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut vendre du pétrole. Et mettre de l'argent à côté. Donc tout ça c'est très compliqué et très long, de la même façon que la démographie. La chute de l'URSS, la démographie russe est effondrée. On est tombé en 2000, je crois, à 1 million 2 de naissances et 2 millions 2 de décès. Donc la population a chuté d'un million 1 million d'habitants par an. C'est une chute catastrophique. Dans les années 90, l'effondrement sanitaire et démographique en Russie était plus fort en moyenne que pour un pays en temps de guerre. Hein, c'est difficile à réaliser, mais c'est vraiment comme ça. Il y a eu l'explosion de tout, les problèmes alimentaires, l'absence de services médicaux de qualité, le froid, le climat, la dureté, la violence, l'alcoolisme, l'apparition du sida en force, la drogue, tout est arrivé en même temps. Donc la Russie était en 1999 dans une situation sanitaire équivalente quasiment à un pays africain. C'était quelque chose de catastrophique. Et là encore, les mesures prises par Poutine, mais surtout le rétablissement économique et le rétablissement des valeurs liées, on va y revenir tout à l'heure, je voudrais en reparler, ont fait que les choses sont doucement remises en place. Donc la démographie russe, ben, cette année a été assez bonne démographiquement, puisque la population a baissé de 130 000 habitants. Hein, il y a 10 ans, la perte était d'un million par an, là on est à juste 130 000. L'année prochaine, la population devrait baisser encore moins, je pense de 60 000, 70 000 habitants. Donc, il y a eu près de 2 millions, il y a eu près de 1 million 8 de naissances, pardon, cette année et 1 million 930 000 décès. Donc, démographiquement, on peut imaginer que ça va beaucoup mieux. Le rétablissement a été entamé. En 2005, il y a une batterie de lois qui a été votée, qui s'appelle, dans le cadre du projet en fait démographique, qui a permis d'aider les familles qui faisaient un deuxième enfant. Donc, étant des aides, des allègements fiscaux, que des Des sommes d'argent, 10 000 euros pour le deuxième enfant, des cadeaux, des crédits sans intérêt, etc. Donc ça aussi, ça a beaucoup contribué. L'État a mis en place un programme démographique très costaud et on peut imaginer que depuis 2005, ça fait effet. Donc ça contribue en fait à l'augmentation du nombre de naissances en Russie, augmentation des naissances qui devrait se poursuivre encore, j'imagine, quelques années.
Très bien, alors merci de
Mais
votre réponse.
alors juste pour dire, oui, il existe beaucoup, beaucoup de problèmes en Russie, beaucoup plus que ces deux-là, bien sûr. Il y a tout un tas de choses, il y a des mentalités à changer, il y a une violence naturelle dans la société, il y a énormément de problèmes. La Russie est un pays en totale restructuration, ça ne peut pas se faire en quelques années. Cette restructuration a commencé. Aujourd'hui, la Russie est un réel laboratoire puisqu'elle est... Elle est à mi-chemin entre le modèle occidental et européen et à mi-chemin entre autre chose, une sorte de voie russe. Donc, en fait, les Russes réparent la Russie et le pouvoir actuel répare le pays à sa façon, c'est-à-dire souvent à la force, à la puissance et à la violence. Les choses ne se font pas diplomatiquement ni doucement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les problèmes en Russie, l'État cherche à les résoudre de façon à l'autorité, à la violence et à la force. Et ce qu'on constate, c'est que ça marche. Ils ont mis le paquet pour la démographie, ça a marché. Ils ont mis le paquet pour rétablir l'ordre dans le Caucase, ça a marché. Ils ont mis le paquet pour empêcher le séparatisme, ça a marché. Donc, finalement, la leçon de tout ça, c'est qu'un grand pays ne peut marcher qu'avec un État fort et que l'État aujourd'hui était fort pour remettre les choses en marche, en fait.
Très bien, merci beaucoup de cette réponse. Alors, vous parliez à l'instant de la question des valeurs et du rétablissement, selon vous, donc des valeurs en Russie. Alors, si vous souhaitez, on peut peut-être poursuivre là-dessus. C'est-à-dire, je
Avec
pense que vous
plaisir.
aviez en vue, ce que vous aviez en vue, je pense, c'est le rôle joué par l'Église orthodoxe enfin, après le communisme et puis dans la restructuration des mentalités, justement, dont vous parliez aussi à l'instant. Si vous souhaitez en parler, je vous en prie.
Avec plaisir. Alors en fait, oui, la Russie est un pays profondément chrétien et profondément chrétien orthodoxe. En fait, la Russie est un pays très traditionnel. Les Russes ont beaucoup de traditions, ils ont beaucoup de petits comportements pour le mauvais sort, pour pas conjurer le destin, etc. Donc il y a ces espèces de traits très anciens qu'on pourrait assimiler à une forme de paganisme, et il y a un retour en force là-dessus, hein, de la religion orthodoxe et du pouvoir religieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, le pouvoir politique se met toujours à égal avec le pouvoir religieux. C'est très important. C'est-à-dire que le retour des valeurs ne vient pas que du religieux, il vient aussi du politique par le religieux. On peut imaginer que dans les années qui vont venir, l'Église orthodoxe russe, pardon, va prendre beaucoup plus d'influence qu'elle en a aujourd'hui. Mais il faut bien envisager la Russie comme un pays continent. C'est-à-dire que des régions en Russie musulmanes, elles sont musulmanes de souche. C'est-à-dire le Tatarstan, le Bachkortostan, les régions du Caucase, c'est la Russie. Ces gens se sentent russiens, c'est-à-dire habitants de la Russie, hein, parce que vous savez qu'en russe, on différencie le russe, qui est théoriquement le russe, le slave orthodoxe, hein, le russe ethnique, du russien. Le russien, c'est l'habitant de la Fédération de Russie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de russiens qui sont des musulmans de souche. Ce ne sont pas des slaves et ce sont des musulmans. Par conséquent, ce retour des valeurs n'est pas que le fait du retour en force de la religion orthodoxe. Aujourd'hui, le pouvoir russe compose avec les forces religieuses, autant l'islam que l'orthodoxie. Et ce retour des valeurs, il touche tant les populations musulmanes que chrétiennes en Russie. Les choses se font de concert. Il y a des tensions politico-militaires, on va dire, avec certaines régions du Caucase, mais globalement, les nombreuses régions musulmanes de Russie sont en totale paix et harmonie. Au Tatarstan, vous avez 50% de musulmans, 50% de chrétiens, ça se passe très bien. Il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais de bagarre, jamais de heurts. Les fêtes sont partagées. C'est une cohabitation parfaite. À ce titre, la Russie et le Tatarstan en particulier est un modèle de civilisation et de cohabitation interculturelle, interreligieuse, islam, chrétienté, comme il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde. Donc, le retour des valeurs, c'est tant le fait du retour du religieux sur le politique, mais ça concerne pas que l'orthodoxie, ça concerne aussi l'islam russe de souche, hein, puisque je répète, il y a un islam russe de souche, et ça concerne aussi le bouddhisme, le protestantisme, le judaïsme finalement est relativement présent. Donc les représentants des communautés religieuses sont très impliqués dans le politique, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant.
Et donc les églises sont de plus en plus fréquentées, si j'ai bien compris.
Oui, il y a une grosse un retour de la foi. Là, récemment à Moscou, en décembre dernier, il y a une ceinture la fertilité qui a été amenée à Moscou. Donc, elle vient du mont Athos, hein, et elle a été présentée dans l'église de Christ Saint-Sauveur à Moscou-Centre. Oui, il y a eu de façon absolument totalement irrationnelle et inattendue des centaines de milliers de pèlerins qui sont venus la voir. Les gens faisaient la queue pendant 40 heures, il faisait moins 15 degrés, les gens attendaient une journée et demie, voire 2 jours, ils faisaient la queue dehors, il y avait l'État a dû organiser donc des toilettes, de la nourriture, parce que les gens, pris de ferveur, voulaient absolument aller voir la ceinture. Donc ça, c'est des choses qui témoignent énormément en fait du retour de la foi en Russie. Et c'est pour ça. Encore une fois, les journalistes étrangers qui se sont félicités de 50 000 manifestants dans la rue ont oublié de dire que 2 millions de personnes étaient allées voir une icône. Vous voyez? Alors que c'est ça l'événement important de décembre. Ce n'est pas 50 000 manifestants de bonne famille. Vous voyez ce que je veux dire?
Très bien, merci. Alors je renvoie pour les auditeurs qui sont comment dire, familiarisés au Libre Team Speak. On avait déjà fait une conférence qui traitait largement de l'orthodoxie par Thierry Joliffe, qui concernait enfin, la conférence intitulée Théologie politique. Enfin, bref, je reviens donc à notre entretien. Et là, je souhaitais aborder la question de l'eurasisme, puisque
Bien sûr.
vous connaissez, vous travaillez avec Alexandre Douguine, qui
Tout à
est
fait.
en représentant en France le plus connu, hein, sans doute, de l'eurasisme, entre autres parce qu'il parle français, notamment, il parle bien français, puis évidemment, il y a une culture aussi, évidemment, qui va avec. Alors, l'eurasisme, c'est une vaste question, donc évidemment, il y a, je pense, l'aspect culturel de l'eurasisme, et puis l'aspect également économique, géopolitique. Alors, peut-être commencer ce thème par le traité de Shanghai, si donc le rapprochement, il y a quelques années, de la Chine et de Moscou, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le rapprochement quoi, des tendances chinoises et russes. Alors, est-ce que c'est bel et bien un élément important qui tendrait vers l'eurasisme ou est-ce que vous contestez cet aspect?
Alors, Alexandre Douguine effectivement non pas, il parle 9 langues. Hein, c'est un polyglotte, dont le français effectivement. Voilà, c'est un des fers de lance, un des précurseurs de la pensée eurasienne et eurasiatique en Russie. C'est un terme très très large et très confus, dans lequel on a tendance à un peu tout mettre, et c'est un terme qui est en cours de constitution. L'idée, c'est que l'eurasisme serait une sorte de réponse on va dire, à l'occidentalisme. C'est-à-dire que le monde serait partageable entre deux grandes puissances que seraient, enfin, partageable. On pourrait opposer deux grandes puissances que seraient la Russie et l'Amérique, avec chacune leur modèle de civilisation propre, c'est-à-dire occidental pour l'Amérique, puisque c'est l'Amérique, on peut penser, qui a créé ce modèle occidental. Unique qu'elle impose partout, qu'elle tente d'imposer partout, et les Russes, la Russie serait depuis le début de son histoire à la quête de son identité réelle, donc une quête qui n'est toujours pas terminée, son identité étant peut-être plus identité de la plaine, hein, une identité de la plaine, on va dire. Donc slave, orthodoxe, mais avec autre chose aussi. Hein, on a parlé de l'identité touranienne qui pouvait ce slavo-touranienne qui pouvait peut-être définir le mieux ce que serait le cœur ethnique de l'eurasisme. Donc aujourd'hui, les événements récents, c'est-à-dire la poussée occidentale, l'effondrement de l'URSS, la poussée occidentale vers l'Ouest, l'extension de l'OTAN, etc., ont un petit peu repoussé la Russie. Il n'y a plus l'Ukraine, la Biélorussie c'est bancal, le Caucase s'est un peu rétréci, beaucoup d'États ont pris leur indépendance après la chute de l'URSS, donc la Russie s'est retrouvée retranchée face à elle-même, un petit peu éloignée, on va dire, de l'Europe de l'Ouest, et plus face à elle-même, face à sa plaine, face à sa Sibérie, face à cette Asie centrale, voilà, avec laquelle elle a une grande frontière. Donc je pense que l'eurasisme, c'est plutôt ça. C'est une espèce de doctrine en cours de constitution qui pourrait constituer un socle identitaire, on va dire, pour la Russie de demain, un socle identitaire pour une Russie non occidentale. Voilà, c'est un terme qui mériterait d'être plus développé, bien sûr, on peut en reparler, mais l'organisation de Shanghai me paraît pas, moi, être un symbole de l'eurasisme. Ça me paraît être une alliance régionale de puissance. qui ont des intérêts et communs et opposés, mais qui se sont trouvés des intérêts communs et qui se sentent menacés ou menaçables par l'Amérique et l'OTAN. Je ne pense pas que l'alliance russo-chinoise à travers l'organisation de Shanghai, en fait, soit une manifestation de l'eurasisme. Je pense que c'est surtout la manifestation d'une recomposition géopolitique, on va dire simple, de puissances qui finalement se sentent petites et peut-être pas assez puissantes et indépendantes face à l'Amérique et qui ont tendance à vouloir s'allier pour se protéger. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'alliance de ces pays d'Asie centrale, de la Chine et de la Russie au sein de l'Eurasie, a sûrement pour but réel de protéger géopolitiquement l'Eurasie, dans de territoire, et d'empêcher l'Amérique et l'OTAN de s'y implanter, de déstabiliser. Mais ça reste une alliance géopolitique simple et régionale. Je crois que la Russie et la Chine ont pour l'instant de bonnes relations, mais sans plus. C'est un équilibre instable. Vladimir Poutine a fait beaucoup pour, et le président chinois a répondu souvent positivement pour finalement aplanir les relations. Je ne sais pas si Russie et Chine finalement ont beaucoup en commun, si ce n'est d'être deux grands pays proches au même endroit du globe en fait. Je pense que l'identité eurasienne de la Russie n'est pas chinoise du tout. Hein, elle est justement, elle est russe des steppes, c'est-à-dire que elle est le pays qui est le plus proche peut-être d'un point de vue culturel. J'allais dire ethnique, mais on ne peut pas vraiment le dire comme ça, ce serait le Kazakhstan. On est très loin de la Chine. La Chine est quelque chose à part. C'est plutôt le Kazakhstan qui est le plus proche de la Russie, finalement. Et d'ailleurs, au Kazakhstan, il reste 35 ou 40% de Russes, je crois, donc ça reste un pays avec une très forte minorité russe. Mais on reste dans cette culture de la plaine, de l'Eurasie cœur, et on est loin de l'Inde, loin de la Chine, c'est autre chose.
Très bien, alors merci de votre réponse. On aura bien compris que le débat concernant l'eurasisme ou l'eurasiatisme est très vaste, encore mal défini. En tout cas, merci de vos informations. Cela m'amène à une autre question que je vous avais proposée. C'était la géopolitique actuelle de la Russie, bien sûr, dans un contexte actuel d'extrême tension avec la Syrie qui est de plus en plus sous la pression occidentale et l'Iran également, bien sûr. Alors, la Russie qui a manifesté comment dire, un soutien à l'Iran et à la Syrie reste-t-elle, et à la Serbie aussi bien sûr, entre autres, mais est-ce que dans le contexte actuel donc iranien et syrien, est-ce que la Russie, selon vous, et le pouvoir poutinien conserve son soutien à ces entités qui sont de plus en plus menacées?
Je pense que on voit aujourd'hui que alors prenons c'est des exemples séparés. Prenons le cas de la Syrie. Oui, aujourd'hui, la Russie soutient la Syrie, les livraisons d'armes ont continué, le veto est posé. Clairement, pour l'instant, la Russie soutient Bachar el-Assad et derrière souhaite ne pas se fâcher avec l'Iran, donc ni avec le monde chiite. Oui, actuellement c'est le cas. Est-ce que ça peut changer? Sans doute, puisque j'imagine que on peut très bien penser qu'un deal soit créé, c'est-à-dire de pas empêcher le vote d'une résolution en échange de quelque chose. Alors de quoi? L'intérêt de la Russie, c'est la Russie. Hein, c'est pas ce qui se passe uniquement ailleurs dans le monde. Je pense que pour imaginer que si les Russes avaient la certitude que l'extension vers l'ouest de l'OTAN s'arrête, on peut imaginer qu'ils s'occupent plus trop de certains pays. Mais moi, je crois que pour ce qui est de la Syrie, c'est mal tombé pour l'Amérique, puisqu'il y a une base navale russe en Syrie. Donc s'ils ne peuvent pas la remplacer et la mettre ailleurs, je ne vois pas comment ils pourraient lâcher le pays. Voilà. Donc actuellement, je pense que les Russes vont faire durer au maximum et tenter de protéger au maximum la Syrie. C'est la première chose. Pour ce qui est de la Serbie, l'affront de 1999, lorsque la Serbie était bombardée, indépendamment de Milosevic, mais la Serbie était bombardée, la Russie à l'époque était faible et elle n'a pas su réagir. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas oublié. Le Kosovo, ça n'a pas été digéré. Et je pense que on voit bien que aujourd'hui la diplomatie russe est publiquement rangée du côté de l'opposition en Serbie, hein, de l'opposition patriotique et pas du tout du côté du bloc libéral pro-occidental au pouvoir. Par conséquent, je pense que les Russes gardent un œil sur la Serbie, avec sans doute l'idée, d'ailleurs la discussion est déjà lancée, de mettre une espèce de base de surveillance semi-militaire à la frontière sud de la Serbie, donc devant le Kosovo, en vue de pouvoir intervenir en cas de pogrom, comme ça devait se reproduire, comme ça s'est déjà produit en 2004, je crois. Oui. Donc je pense qu'il y a un œil sur la Serbie qui est gardé, sachant que cette zone est explosive. Voilà. Donc je crois que Syrie-Serbie, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Et concernant l'Iran, ben je pense que l'Iran et la Russie ont toujours traditionnellement eu une très forte entente. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas eu de tension entre ces pays, entre ces peuples. Ils ont toujours réussi à discuter ensemble. Donc, à mon avis, derrière la protection de la Syrie, les Russes montrent qu'ils feront pas de sale tour à l'Iran. Et on peut imaginer que c'est très bien comme ça.
Très bien, Alexandre Astaz, je vous remercie. Donc c'est la première partie de cet entretien est terminée. Et donc maintenant, place aux auditeurs, notamment Pierrick, qui a une question, donc je lui laisse la
Bien
parole.
sûr. Hein.
Alors bonsoir.
Bonsoir.
Bon, j'aurais une question très simple tout d'abord à vous poser, c'est sur quel chiffre se base-t-on pour dire que Poutine a amélioré la vie du peuple russe? Donc c'est le chômage, les salaires, le pouvoir d'achat par exemple. Quelle est l'évolution générale et quels sont les chiffres vraiment significatifs?
Alors, c'est une très bonne question. Alors non, on ne se base pas du tout sur les chiffres, justement, et je vais vous expliquer pourquoi. Même si les chiffres sont très parlants, mais ce n'est pas suffisant. On se base uniquement sur ce qu'on peut voir du pays. Enfin, je veux dire, moi, je suis arrivé en 2008 en Russie, donc le pays était déjà bien retapé. Mais ce que je vois de mes yeux depuis 2008 à 2012, dans les villes, alors Moscou, c'est un peu différent, mais dans les autres villes du pays où je peux me rendre, les différences, l'évolution est flagrante. Alors, j'imagine, et ça m'a été confirmé, que les gens qui étaient en Russie en 1999-2000, entre 2000 et 2008, ils ont vu aussi beaucoup de changements. Bah, les grands chiffres, c'est l'apparition d'une classe moyenne qui correspond aujourd'hui à 13, les 13-14% de la population. C'est un chômage qui est tombé à 6,2%. C'est un salaire moyen déclaré dans le pays qui est autour de 600-700 euros, hein, c'est l'équivalent de la Pologne. Dans les grandes villes, les salaires moyens sont bah, l'équivalent des salaires européens. Bon, à Moscou, les salaires sont de 1500, 1600 euros, les salaires moyens, donc c'est comme en Europe. C'est l'évolution démographique, hein, c'est-à-dire qu'il y avait 1,2 million naissants en 2000, il y en a 1,8 million cette année. Il y avait 2,3 millions décès par an, il y en a 1,9 million. C'est l'amélioration des routes, c'est le parc automobile, c'est l'apparition d'appartements avec des standings modernes et européens. C'est la disparition totale de l'insécurité. C'est des choses que, bon, c'est pas chiffrable, ce serait chiffrable sans doute, mais je veux dire, c'est les paliers franchis à la hausse sont tellement forts et violents et visibles visuellement que, à la rigueur, on n'en est pas à une bataille de chiffres avec des virgules, c'est-à-dire que personne aujourd'hui qui connaissait la Russie d'avant et connaît la Russie maintenant, personne ne peut dire que ça va pas mieux. C'est-à-dire que vous ne le trouverez nulle part. On vous dira, les droits de l'homme sont bafoués, etc. Mais économiquement, ça va beaucoup mieux. Qu'à voir le nombre de Russes qui viennent en France, je pense que vous en voyez, il y en a partout. Ils voyagent, ils bougent, il y a des gens qui ont de l'argent. Les Russes s'installent en Tchéquie, s'installent à Chypre, ils achètent. Bon, moi, je connais bien les gens qui vont là-bas, ce n'est pas les oligarques, c'est les gens de la classe moyenne, ils bossent, ils ont des salaires, ils gagnent de l'argent, ils peuvent investir à l'étranger. Donc, le mieux, il est là. C'est la population s'enrichit, les gens vivent mieux, et voilà, donc ils vivent normalement et ils s'enrichissent beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, la classe moyenne russe vit beaucoup mieux que la classe moyenne française. C'est difficile à croire vu de France, et ce n'est pas le cas qu'à Moscou. Si vous allez dans les villes moyennes de Russie, on vit mieux en Russie aujourd'hui ou aussi bien qu'en France. En tout cas, on vit avec beaucoup moins de stress et de nuisance.
D'accord, merci beaucoup. Et j'aurais également une autre question
Bien sûr, monsieur.
pour faire préciser en fait quels sont les grands points d'opposition, les intérêts divergents principaux niveau géopolitique entre la Russie et ce qu'on pourrait appeler l'Occident, où est-ce que ça se passe exactement? Et quels sont les pays de la région donc encore alignés fermement aux côtés de la Russie? Je pense par exemple à la Biélorussie ou au Kazakhstan peut-être. Voilà, sur ces donc quels sont vraiment les grands points forts d'opposition entre la Russie et l'Occident et quels sont les pays alliés de la Russie dans la région?
Alors, les pays alliés directs, l'allié proche, c'est alors et là cette question est très intéressante. Il faut revenir sur un autre sujet dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'interview, c'est le racisme. Aujourd'hui, effectivement, une recomposition géopolitique à travers un projet géopolitique qui est l'Union asiatique de Vladimir Poutine. Les pays concernés, c'est la Biélorussie, justement, la Russie, le Kazakhstan. Vous savez que depuis le 1er janvier cette année, il y a une union douanière, financière, libre circulation des personnes qui a été créée entre ces pays. On parle même d'une monnaie commune qui va être créée. Donc en fait, ces deux États, Biélorussie et Kazakhstan, sont évidemment les plus fidèles alliés russes, hein, si je puis dire. L'Ukraine, depuis le changement de pouvoir, la chute de Yushchenko et l'arrivée de Yanukovych, est un pays neutre, plutôt tourné vers la Russie. Moi, je pense que 2012 verra l'entrée de l'Ukraine dans l'Union eurasiatique, justement. Et juste une petite digression là-dessus, c'est-à-dire que on voit que l'Union eurasiatique, eurasienne dont on parlait, elle se fait vers l'Europe avec l'Ukraine et la Biélorussie. Il y a le Kazakhstan dont j'ai parlé, mais on voit bien que les États visés sont les États de l'ancien territoire russe, vers l'Ukraine et la Biélorussie. La Russie ne cherche pas à faire une Union eurasiatique avec la Chine. Vous voyez? On recompose et on réagrandit le territoire sur des bases historiques communes. On pourrait parler d'Union soviétique 2.0, c'est-à-dire que le but, c'est d'avoir un étranger proche et des pays frontaliers qui ne soient pas hostiles. Donc, si c'est des alliés proches comme le Kazakhstan et la Biélorussie, c'est très bien. Si c'est des pays qui ne sont pas hostiles, comme c'est l'Ukraine d'aujourd'hui, la Géorgie d'après Saakachvili, c'est-à-dire la prochaine Géorgie, etc., ça va considérablement renforcer la Russie. Les points d'accroche, c'est les suivants. Je pense que ce système occidental, ce dispositif occidental, a inclus en lui un système militaire, l'OTAN, un système financier, hein, financier planétaire, un système politique de valeurs, et qu'aujourd'hui la Russie ne refuse et l'entrée et l'assouvissement et l'asservissement vers l'OTAN, et le système financier global, et le système de valeurs tel qu'il est défendu à l'Ouest. La Russie souhaite se développer et à sa façon, et ne veut pas se faire imposer de façon de faire et façon de penser de l'extérieur. Donc l'opposition, elle s'est faite sur des tas d'opérations comme la Serbie en 99. Hein, la Serbie pouvait être considérée comme un État non aligné, voire potentiellement pro-russe. Bah, il a été détruit. L'Ukraine a été renversée. La Géorgie d'avant Saakachvili a été renversée. La Biélorussie est sous pression. Donc tous les États qui sont pas soumis, on va dire, mais pas prêt à rentrer dans le rang, c'est-à-dire autant Union européenne, s'endetter auprès du FMI, etc. Tous ces États-là peuvent être considérés comme des États potentiellement voyous. Hein, c'est l'Iran pour d'autres raisons, etc. On voit bien aujourd'hui, par exemple, la pression sur la Hongrie de Viktor Orban. Si vous lisez ce qu'on dit dans la presse sur Viktor Orban, c'est exactement ce qu'on dit sur Poutine. C'est nationaliste, il n'y a pas les droits de l'homme de respecter, la Hongrie devient une dictature, etc. Pourquoi? Parce que Viktor Orban cherche à développer une politique qui est autre. Il cherche à pas rentrer dans le rang, il veut pas que son pays soit détruit, il a une vision. Donc tout ce qui sort du rang, tête coupée. Et aujourd'hui, malheureusement, la Hongrie est un tout petit pays, mais si la Russie était aussi faible que l'est la Hongrie d'aujourd'hui, c'est-à-dire un petit pays endetté sans argent, je pense qu'elle aurait déjà été détruite, décomposée et coupée en trois ou quatre parties, hein, comme ça a été écrit par les conseillers du Brzezinski, qui est un des stratèges américains et l'ancien conseiller du président Carter. Il a écrit un bouquin. Explique parfaitement qu'il faisait dans l'intérêt américain qu'il y ait trois États à la place d'un en Russie. Ce serait plus simple de discuter avec de petits États qu'avec un gros État indépendant, fort et souverain. Donc, Kazakhstan et Biélorussie sont les alliés fidèles. L'Ukraine devrait le devenir encore plus. Pense que le front, c'était hier la Serbie, avant-hier la Serbie, hier l'Ukraine. Aujourd'hui, peut-être qu'il peut y avoir un mouvement d'arrêt ou de reflux. C'est-à-dire que si la Biélorussie et l'Ukraine sont main dans la main avec la Russie, je pense que ça va faire beaucoup attaquer. Voilà.
Très bien, merci pour cette réponse. Je vais relayer une question à présent de Maître Panis qui vous demande comment analysez-vous le rôle de l'ancien président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, qui appelle Vladimir Poutine à quitter le pouvoir? Merci.
C'est très simple. Gorbatchev a succombé aux sirènes occidentales. Vous savez qu'il a fait des pubs pour Louis Vuitton, il a fait des pubs pour des pizzas américaines à la télé, il a gagné de l'argent avec ça, hein, ça on ne le sait pas, mais c'est la réalité. Il a fêté son anniversaire l'année dernière en Allemagne avec tout le showbiz américain, les acteurs de cinéma, etc. Donc, Ben voilà, il veut encore exister, il faut bien avoir quelque chose à dire. Le problème, c'est que de s'opposer à Poutine, c'est impossible, parce que Poutine est de droite et de gauche, il est nationaliste comme il est mondialiste, il est tout. Il tient un discours transversal, incernable et incassable. Et puis surtout, il est au pouvoir, il a des résultats. Donc s'opposer à Poutine, c'est difficile. Et je pense que Gorbatchev, ben, pour avoir quelque chose à dire, voilà, il a dit qu'il fallait que Poutine parte. Il est ridicule et de toute façon, il n'est pas crédible. Et de toute façon, il n'y a qu'en Europe qu'on l'écoute. En Russie, il y a 1% des Russes qui écoutent Gorbatchev. Donc voilà, je n'ai pas d'autre explication. Soit il est payé, soit il est devenu. Comme on dit, je pense qu'il mange trop de caviar et trop de foie gras en Europe de l'Ouest et que par conséquent, ben, il vit trop bien. Je sais pas. Ou alors ils lui ont fait des piqûres. Mais de toute façon, gardez en tête que Gorbatchev n'a pas d'influence en Russie. Il n'en a que dans les médias, il n'en a qu'au Figaro. Voilà. Donc il n'en a plus du tout, il n'a pas en Russie.
Merci de cette réponse, Alexandre. Alors, je laisse la parole à un auditeur ADN.
Bonsoir. Petite question, on parlait des alliés de la Russie. Bon, moi, je sais pas, j'en profite. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de connaissances sur la Russie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la politique russe vis-à-vis de l'Israël? Est-ce que c'est considéré comme un allié? Est-ce que. Il y a des échanges d'armes entre eux. Voilà, ça c'est ma première question. La deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de Poutine vis-à-vis de quoi, ça, tout ce qui est gouvernance mondiale? Est-ce qu'il a déjà parlé de gouvernance mondiale? Est-ce que il est pour une gouvernance mondiale? Est-ce que voilà, c'est mes deux questions. Je vous remercie.
J'ai compris. Alors, je pense que là, un espèce de blocage Russie-Israël, assez complexe. J'ai bien compris sur les 62 000 personnes recherchées aujourd'hui en fuite, on va dire, et recherchées par l'État russe, il y en a 30 et quelques mille en Israël. Donc c'est un indicateur de quelque chose. Donc c'est très récemment, hein, ça date des dernières années, de 2 ans ou 3 ans, où en fait, des échanges diplomatiques et militaires se sont mis en place entre la Russie et Israël. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de méfiance réciproque. Il y a une très grosse communauté russe juive en Israël, vous savez, qui a émigré, qui a quitté l'Union soviétique et qui a quitté la Russie de Poutine pour d'autres raisons. Et par conséquent, on peut imaginer qu'il devrait y avoir beaucoup plus de liens, mais il y en a très peu. C'est récemment qu'il y a une suppression des visas tourisme, il y a eu cet achat de drones israéliens par l'armée russe. Cet achat s'est fait juste après l'acceptation par les Russes de ne pas livrer de S-300, les missiles anti-aériens, à l'Iran. Certains ont dit qu'il y avait eu un deal, donc c'est assez compliqué. Je suis en train d'étudier cette question, je vais écrire là-dessus parce qu'effectivement je trouve ça excessivement intéressant. Je pense que les Russes voient quand même un peu trop, et à leur goût, Israël comme un État. Un pion américain, un État allié de l'Amérique. Et surtout, il y a un très très gros historique de diplomatie pro-arabe en Russie. Donc c'est très compliqué, je pense, à allier les deux et à changer un petit peu, à switcher d'habitude. Il y a une grosse diplomatie pro-arabe. Le Hamas est très souvent reçu à Moscou, par exemple, souvent très mal compris à l'Ouest. Donc. Bon, ça, c'est des actions qui sont de nature à refroidir, j'imagine, une grande partie de l'élite israélienne. Et puis, la communauté russe en Israël est une communauté très conservatrice. C'est l'électeur, c'est le gros de l'électorat très nationaliste. Donc, je ne sais pas si c'est particulièrement propice finalement aux discussions avec la Russie. Je ne sais pas du tout. Après. J'écrirai là-dessus dans les prochains mois, en tout cas. Je suis en train de me documenter là-dessus. Je discute avec quelqu'un qui m'explique de son point de vue. Et voilà, j'écrirai là-dessus dans les prochains mois, c'est certain. Et très peu de choses ont été écrites en français là-dessus, donc je comprends l'importance de le faire. Après, concernant la gouvernance mondiale, je crois que la crise financière mondiale a tout bouleversé et a sûrement accéléré certains processus. Et moi, ce que je constate, c'est que en Russie, il y a des processus opposés qui sont accélérés aussi. C'est-à-dire que on fait notre union à nous avec la Biélorussie, le Kazakhstan, l'union monétaire, l'union eurasiatique, la monnaie commune. J'ai l'impression que les Russes ne veulent pas rentrer dans le jeu mondial tel qu'il est défini aujourd'hui par l'Amérique. Cette équation ne leur plaît pas. En Russie, il y a une traditionnelle vision d'un monde très multipolaire où chaque acteur a son rôle à jouer. L'uniformité mondiale, ils n'y croient pas, ils ne le voudront pas, ils s'y opposeront. Donc, ils sont en train de recomposer ce qu'on appelle en russe la Derjava, c'est-à-dire l'État-puissance. Hein, cette recomposition d'une Derjava avec un État fort tenu en Russie et l'agrégation d'États proches et alliés comme le Kazakhstan, la Biélorussie, sûrement sans doute l'Ukraine, je pense que ça, c'est pour recomposer un immense pôle puissance régionale, eurasiatique et post-soviétique, hein, soviétique 2.0, comme j'aime à dire. Et je pense que ce bloc-là, ils le font aussi parce qu'ils se disent que grand un, tout s'effondre autour, on sera plus solide. Grand deux, si vraiment se mettent en place des processus de gouvernance mondiale totalitaire, comme c'est possible, on sera plus à même d'y résister.
Merci de votre réponse, Alexandre. Je laisse la parole à Lior.
Bonjour, merci pour cet exposé, c'est très clair. Moi, je ne connais rien du tout à tout ce qui se passe au niveau de la Russie, des pays de l'Est. C'est vraiment pas le domaine dans lequel j'excelle. Est-ce que pour moi qui ne comprends rien du tout, vous pourriez prendre 2 minutes pour m'expliquer la situation vis-à-vis de la Géorgie, de l'Ossétie, quelles sont les relations entre la Russie et ses États, c'est quoi, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire avec l'Ossétie du Nord. Quoi qu'il en soit, hop, si vous pouviez nous donner une petite explication là-dessus,
Ah
merci
oui,
bien.
c'est très compliqué de faire de l'histoire en peu de temps. Ben, c'est simple, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que ben, ouais, alors les relations Géorgie-Russie méritent que vous consultiez des. Historiquement, c'est très compliqué, ça mérite de consulter des ouvrages là-dessus. En fait, la relation entre la Russie et ses États frontaliers, elle doit être envisagée du point de vue russe. D'un côté et du point de vue de l'allié de l'autre, mais d'une façon particulière. La Russie est un pays immense, les frontières autour de cet État sont naturelles, hein, c'est pas des chaînes de montagnes, hein, c'est la plaine avec des grands pays, bon, il y a des montagnes dans le Caucase, mais je veux dire donc, c'est un immense pays sous-peuplé. Cet aspect géographique est très important. Il conditionne la relation avec le voisin. La Russie est toujours un pays en extension sur ses frontières, parce que si ce n'était pas le cas, il y aura un effet de repli sur soi-même, de destruction et de frontières qui disparaîtraient naturellement. Je m'explique. Beaucoup de frontières qui sont apparues à la chute de l'URSS, bon, bah, sont des tracés sur une carte, mais il n'y a rien qui différencie un côté de l'autre. Le meilleur exemple, c'est la frontière entre la Russie et le Kazakhstan. Des deux côtés, c'est pareil. Il y a autant de Russes que de Kazakhs, que de Tatars, que de. Etc. Il n'y a pas de différence. Dans le Caucase, c'est pareil. Donc, la Géorgie, qui est un État qui a pris son indépendance, a été victime de ce qu'on appelle une révolution de couleurs. C'est arrivé en 2005, si je ne me trompe pas. Et en fait, cette révolution de couleurs a été en 2004, pardon. Cette révolution de couleurs, appelée la révolution des roses, en gros, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abouti à la destitution du leader historique Edouard Shevardnadze, qui était relativement pro-russe. Cette révolution de couleurs organisée par l'Amérique a abouti à la prise de pouvoir d'un nouveau chef, d'un nouveau président, Mikhail Saakachvili, qui a mené une politique extrêmement pro-américaine, extrêmement pro-OTAN, et il a demandé l'adhésion à l'OTAN notamment, et donc. Bon voilà, il s'est dit, tiens, oulala, on est un petit pays, mon Dieu, la Russie nous menacera encore, c'est le retour, c'est en permanence le syndrome de l'URSS, un peu comme les certains peuples d'Europe centrale ont ce ressentiment à l'égard de la Russie. Ils ont toujours l'impression que c'est une sorte d'immense pays qui va les réenglober, les réavaler, les réoccuper. Donc après la prise de pouvoir de Saakachvili, ben les tensions diplomatiques avec la Russie les croissantes finalement. Il y a eu la pression manipulée des deux côtés, etc. Et début 2008, en fait, il y a avec certaines régions séparatistes, très anciennes séparatistes de Géorgie, comme l'Ossétie, il y a eu des échanges de tirs qui ont abouti à une intervention militaire de l'armée géorgienne en Ossétie, des combats très violents et une réponse militaire de la Russie qui est entrée en Ossétie pour la simple et bonne raison, c'est que les citoyens ossètes de Géorgie disposent de passeports russes. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais en fait, l'attaque contre les ossètes de l'armée géorgienne a été vécue comme une attaque contre des citoyens russes puisqu'ils sont tous russes. Par conséquent, il y a une guerre de 4 jours qui aboutit à ce que l'armée géorgienne se prenne une raclée, évidemment, soit chassée d'Ossétie et que l'Ossétie se déclare indépendante. Donc les relations sont gelées. Poutine a dit qu'il voulait pendre Saakachvili par les couilles. Hein, pour parler, je retranscris. Saakachvili a lui dit qu'il voulait intégrer l'OTAN. Il risque de pas être réélu. Donc Ça en est gelé à ce point-là. En fait, c'est très compliqué parce que dans beaucoup de pays, il y a des minorités, des peuples. Hein. Le Caucase est un enchevêtrement de petits peuples. On dit que lorsque Dieu a enjambé le Caucase, son sac de peuples s'est troué et tous les peuples sont déversés sur le Caucase. C'est pour ça que tout est mélangé. Et donc, il y a des orthodoxes, des musulmans, tout le monde est mélangé. Il y a des tribus, voilà, c'est très compliqué. On parle 200 langues dans un pays comme le Daghestan, donc les choses sont très peu simples. Et par conséquent, il y a des tensions intergroupes. Et voilà, donc l'historique, on va dire très rapidement, évidemment, synthétiquement, Russie-Géorgie vient de là. En fait, le nouveau gouvernement géorgien est ouvertement pro-américain, pro-OTAN. Il a servi de fusible pour tester l'activité de l'armée russe en 2008. C'est ce que je crois. Saakachvili a servi de fusible. Et la réponse russe a été costaud et musclée, et donc ça a été un indicateur pour les stratèges américains, une capacité de réaction en fait de l'armée russe en cas d'intervention militaire.
Merci de la réponse, Alexandre. Je laisse la parole à mon camarade Anthony. S'il est là.
Oui, pardon. Je voulais poser la question, je suis un petit peu égocentré, on va dire. Donc ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu la vision russe par rapport à la France. Comment ils voient notre pays, alors pas en général, hein, pas au niveau historique, mais à l'heure actuelle, la politique française actuelle, alors aussi bien dans les médias russes, peut-être au niveau de la population russe, si vous avez des retours,
bien sûr.
Également au niveau politique, et au niveau des politiciens russes, ça m'intéresse aussi. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit panorama sur la France.
Je peux, et je le peux parce que c'est un sujet que je maîtrise très bien. Alors, les médias russes sont généralement assez tendres et gentils avec la France. Il y a une traditionnelle amitié franco-russe très forte. Si vous êtes allemand en arrivant et vous dites que vous êtes pro-Hitler, bon ben vous pouvez vous prendre des tartes et vous faire taper dessus. Si vous dites à des Russes, je défends Napoléon, il laisse vous envahir, bon vous êtes respecté parce que voilà ils ont du respect pour la France. Ils aiment De Gaulle. La France, vous savez qu'on parlait russe à la cour, on parlait français pardon à la cour russe du tsar très longtemps. Donc il y a un historique France-Russie très fort, sentimental, énorme. Les Français sont appréciés, les Françaises aussi. Le style français, enfin tel que les Russes le voient encore, c'est-à-dire la mode, le luxe, l'élégance, le raffinement des hommes, ça leur parle énormément. Par contre, les Russes aiment la France. Ils aiment les Français. Tout ça, c'est entre guillemets. Récemment, la plupart des Russes, comme je vous disais, je travaille dans les ressources humaines, donc je suis avec des milliers, des centaines de candidats et candidates, donc j'ai le retour de gens qui sont anglophones, francophones et voyagent. Et l'image de la France d'aujourd'hui n'est pas du tout correspondante avec l'image qu'ils en ont, qu'on leur a inculquée. La France aujourd'hui, les Russes qui reviennent de France disent toujours la même chose, c'est « Oh là là, il y a beaucoup d'étrangers, mon Dieu, c'est grave ». Oh là là, finalement, la France, c'est un pays sale. C'est sale dans la rue, les gens sont sales. Voilà. Donc, il y a une très, très grosse déception. Les médias essaient de pas trop en parler, mais de temps en temps, il y a des articles qui sortent où la France se prend une sacrée couche. C'est bien mérité, à mon avis, parce que, voilà. Et les Russes qui vont en France, qui arrivent dans le 93 ou dans l'Essonne, ou dans les banlieues à Lyon, etc., bon, bah, quand ils voient la population, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas du tout ce qu'ils sont. C'est en avoir. Donc ça, c'est la grosse déception. C'est le gros point d'interrogation. Politiquement, pour faire simple, les Russes sont relativement nationalistes et conservateurs. Donc en France, on va dire globalement, c'est Jean-Marie Le Pen qui est de très loin l'homme politique le plus jugé comme le plus normal en Russie. Si vous dites Le Pen, à la rigueur, un Russe normal vous demande pourquoi vous votez pas Le Pen en France. Hein, moi, je dis, mais c'est un mec qui vote pas Le Pen, pour lui, c'est pas normal. oui, Mathieu. Donc, voilà, c'est aujourd'hui, ça c'est au niveau de la population. Au niveau du pouvoir russe, il y a une tendance à se méfier énormément des socialistes européens. Parce qu'ils ont l'impression que les socialistes sont pro-immigration, grand 1, et grand 2, sont peut-être dogmatiques sur les droits de l'homme. Et pour les Russes, la question des droits de l'homme n'est pas prioritaire. Donc, très schématiquement, on peut imaginer que les Russes le gouvernement actuel en Russie préfère parler des gouvernements de droite, mais des gouvernements de droite qui ne seraient pas atlantistes. Hein, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que les gouvernements de droite, généralement en Europe, conservateurs, sont très atlantistes et pro-américains, donc ça crée un deuxième blocage. Donc le peuple russe, en gros les Russes sont assez conservateurs et ne comprennent pas pourquoi la France se remplit d'étrangers, ni comment est-ce qu'on peut passer notre journée à manifester, et ci et ça. L'élite est méfiante à l'égard des socialistes, et par conséquent, voilà, ça c'est un petit peu ce qu'il en sort, quoi. Et c'est vrai que quand on vit à l'étranger, qu'on rentre en France, enfin, le pays vraiment a une drôle d'allure, ne fût-ce que l'ambiance, les gens. Je veux dire, la France est en train de se transformer, je pense, en asile de fous. Mais du coup, ça fait du bien de sortir de France longtemps et après d'y revenir et d'avoir les yeux beaucoup plus ouverts. Voilà, donc là-dessus, moi, j'adhère assez à la pensée russe sur la France parce que, en tant que Français, je ne peux que confirmer que ce qu'ils pensent est vrai.
Très bien, je vous remercie. Et je relaie une autre question de Maître Panis qui vous demande cette fois-ci s'il y a des relations entre le Front National français donc, et les partis politiques russes, notamment Russie Unie ou d'autres.
Alors, moi, je ne suis pas membre du Front National, donc je ne suis pas dans les petits secrets. Mais il y a une espèce de. On va dire, comment on va définir. Il y a une espèce de petit. Je pense qu'il y a une espèce de rêve et de fantasme un petit peu de la scène nationale, on va dire nationaliste française et européenne en général de l'Ouest, vers la Russie de Poutine et vers la Russie en général. Dans un sens, je pense que pour eux, c'est parce que la Russie est un État fort qui se relève et dans lequel il y a de l'ordre, où les valeurs sont défendables, c'est-à-dire qu'on peut... On peut dire qu'on est fier d'être russe, patriote, chrétien, et c'est à la mode, et c'est normal. Et c'est celui qui dira pas ça qui est anormal. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut plus dire en France. Après, je pense que il n'y a pas d'intérêt, à mon sens. J'ai plus de relations avec les gens de Russie Unie qu'avec les gens du Front National, et je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour Russie Unie aujourd'hui d'avoir des liens avec le Front National. Parce que le Front National, évidemment, aller voir Poutine, tout le monde a envie. Alors, vous imaginez, Marine Le Pen va voir Poutine, c'est sûr que c'est prestigieux, mais enfin, quel est l'intérêt de Poutine? Qu'est-ce que Poutine a à apprendre? Marine Le Pen va lui expliquer qu'il y a trop d'immigrés en France, que les socialistes ont détruit le pays, oui, mais ça, bon, il le sait. Donc, c'est pas nouveau. Donc, je pense que Russie Unie n'a pas d'intérêt aujourd'hui à discuter avec un parti qui n'a pas d'élu et qui n'a aucun pouvoir politique. Aujourd'hui, Russie Unie est un parti de gouvernance. Donc, il dirige avec les gens qui gouvernent d'autres pays. Donc, c'est la droite aujourd'hui en France. Et l'UMP, ce sera la gauche demain si François Hollande est au pouvoir. Même si c'est beaucoup plus conflictuel. La Serbie, pays dans lequel le pouvoir russe soutient, on va dire, délicatement et un peu pas trop publiquement l'opposition, c'est un cas à part parce qu'il y a un historique sentimental très fort russo-serbe, c'est slave, c'est orthodoxe. Vous verrez pas la diplomatie russe aller publiquement soutenir un parti d'opposition quel qu'il soit dans un grand pays européen. Ça se fait pas. Donc je ne vois pas trop pourquoi aujourd'hui Russie Unie aurait intérêt à accepter ou à avoir des liens avec le Front National.
Merci Alexandre de cette réponse. Alors maintenant une question de Polo, on a dit.
Bonjour, merci pour votre exposé, c'était très instructif. J'ai une question pour rester en Europe mais quitter la France, qui concerne un rapprochement Allemagne-Russie. C'est quelque chose qui apparaît de manière assez récurrente dans la presse depuis l'an 2005 à peu près. C'est quelque chose qui reste systématiquement au stade de rumeur à l'heure actuelle. Mais concernant donc ce rapprochement, est-ce que vous auriez des informations là-dessus, puisque au vu de la crise qui se déroule en Europe, l'Allemagne aurait probablement un bon coup à jouer à se rapprocher de la Russie.
Oui, et c'est pas que des rumeurs, elle le fait ouvertement et déjà. Il y a une collaboration économique excessivement poussée l'Allemagne et la Russie, excusez-moi. Et c'est pas des rumeurs, il y a 450 sociétés, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 450 sociétés françaises en Russie, il y a 4500 sociétés allemandes, hein, donc il y a 10 fois plus. Donc l'implantation allemande en Russie est très importante, les collaborations économiques sont excessivement poussées, la collaboration politique énormément. Gerhard Schröder, l'ancien président allemand, est membre du conseil de communication de surveillance de Gazprom. La chancelière Merkel parle en russe quand elle discute avec Poutine, évidemment, à l'est allemande. Donc, il y a une collaboration économique très très forte. Beaucoup plus qu'avec la Russie, l'Italie de Berlusconi ou la France de Sarkozy. Donc, c'est pas des rumeurs, c'est réel. Et les Allemands ont tout à fait compris l'intérêt stratégique de la Russie du marché russe, alors que par exemple les Français n'ont exporté en Russie que les grosses sociétés, les PME allemandes sont déjà toutes en Russie. Les vols directs de Lufthansa pour les villes de l'Oural, il y a des Allemands, des restaurants allemands dans les villes russes, il y a des menus en allemand. Les Allemands sont très présents et très, très bien reçus, très bien implantés et ils sont très efficaces. Donc effectivement la collaboration Russie-Allemagne est réelle. Hein.
D'autant que Vladimir Poutine parle un excellent allemand également. Enfin bref, je donne la parole à Jean-Marie.
Bonsoir Alexandre, merci de ta présence sur le livre TeamSpeak. C'est très très intéressant ce que tu nous as dit. J'avais une question par rapport à la quatrième théorie politique dont Douguin est l'un des principaux artisans. Et je voulais savoir si sa théorie, à savoir le national-bolchevisme, et je dirais même le national-bolchevisme traditionnaliste, faisait réellement des émules en Russie. Et quelle était la position de Poutine et de son parti par rapport à cette nouvelle idéologie? Et troisième question, y avait-il des think tanks politiques se réclamant de ce courant en Europe de l'Ouest?
Alors, concernant le national-bolchevisme et ses différentes déclinaisons, moi je crois que c'est une théorie qui est en pareil que l'eurasisme, sur la même ligne, sur la même parallèle, c'est-à-dire elle est toujours en mutation. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez nous on le voit comme quelque chose d'idéologique et de doctrinal, mais pour les Russes ça ne l'est pas. Je veux dire que ce qu'on peut nous imaginer en Europe de l'Ouest et en France comme étant quelque chose de doctrinal, d'idéologique on va dire, et du pratique en Russie, finalement le mélange de l'Union soviétique est souvent vu de l'Ouest comme quelque chose de 100% rouge et rien d'autre, mais pour beaucoup de penseurs eurasiens c'était une des variantes d'une structure eurasiatique on va dire, et c'était une des variantes politiques de l'eurasisme. Donc le national-bolchevisme finalement dans cette équation là ça y est compris, c'est à dire que l'eurasisme et le national-bolchevisme tel que Douguin le présente, moi je pense fondamentalement que c'est un peu la même chose. Et c'est des courants de pensée qui sont anciens en Russie, qui ont toujours été là, qui ont toujours été minoritaires mais très présents, très repris et très influents. C'est l'archétype de Douguin aujourd'hui. Son mouvement est minoritaire, c'est un petit mouvement, il a quelques milliers de sympathisants et d'actifs, mais ses idées sont excessivement reprises et influentes sur le terrain intellectuel russe aujourd'hui et politique. Deuxième mandat de Poutine, il avait accès à au premier cercle du président, hein, de Poutine. Ça s'est un peu modifié sous la présidence Medvedev. Hier, il a pris la parole au meeting pro-Poutine, ce qui me laisse penser que ça va dans le bon sens. Par conséquent, ces idées-là, post-national-bolchevique, on va dire traditionnelles ou néo-eurasiatiques ou soviétiques 2.0, enfin, je sais que c'est un peu compliqué et que c'est pas très clair peut-être ce que je dis, mais tout ça est travaillé par un grand nombre de gens actuellement en Russie pour essayer de pondre quelque chose de un corpus d'idées en fait qui soit cohérent à occidental ou non occidental et adapté à la Russie. Après, concernant les think tanks en Europe de l'Ouest, à ma connaissance, il n'y en a pas. Je sais que les éditions Avatar ont publié des textes de penseurs liés à l'eurasisme. Mais c'est tout, je crois qu'il n'y a pas de think tank. Je crois de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est que la pensée eurasiatique, elle a ses limites. Je veux dire, moi, il faudrait y réfléchir d'ailleurs et travailler là-dessus, et c'est intéressant à faire. Qu'est-ce que la France pourrait faire dans l'Union eurasiatique? Est-ce que la Hongrie a intérêt à y aller? Est-ce qu'elle a une proximité culturelle et géographique avec le monde touranien? Est-ce que la France demain peut être amenée à rejoindre l'Union eurasiatique euraso-européenne? Est-ce que la France pourrait être demain amenée à rejoindre l'organisation de Shanghai? Pourquoi pas, après tout, et quitter l'OTAN? Voilà, il y a des grandes questions en suspens géopolitiques et donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses sur lesquelles réfléchir. Et ce que je crois, c'est que la quatrième théorie géopolitique de Dugin, telle qu'il est en train de la travailler, sur laquelle il a déjà écrit plusieurs livres, c'est un des cœurs de cette réflexion globale en fait.
Merci.
Merci de la réponse. Jean-Marie avait peut-être d'autres questions, je crois.
Non, c'était en fait, là je les ai regroupés en fait. Voilà.
Très bien, alors je laisse la parole à Polo désormais.
Donc rebonsoir. Une dernière question. Nous avons en France un géopoliticien qui s'appelle Aymeric Chauprade. J'aimerais savoir si vous le connaissiez, si vous aviez pu échanger déjà avec lui, si vous connaissiez son travail, et si c'était le cas, si vous aviez un avis sur son ouvrage « Chronique du choc des civilisations ».
Je n'ai malheureusement pas pu lire cet ouvrage, mais je connais Aymeric Chauprade, nous avons échangé par mail. Je suis un très grand fan de ce qu'il fait, je sais qu'il me lit de temps en temps. Voilà, donc je sais qu'il est souvent en Russie, m'interrogeant les médias. Globalement, je suis à 99,9% d'accord avec tout ce qu'il écrit. Je crois qu'il a parfaitement cerné les enjeux géopolitiques qui entourent l'Eurasie. Malheureusement, j'ai pas pu lire son ouvrage. L'ouvrage que vous citez, je l'ai pas lu. Étant en Russie et rentrant très peu en France, j'ai une pile de bouquins à commander que je devrais lire. Je l'ai pas encore fait, donc voilà. Et bon, je peux imaginer que Aymeric a parfaitement cerné les dangers du choc de civilisation et donc en fait s'emploie sans doute à dénoncer les risques de ce choc de civilisation tel qu'il est voulu par certains. Et les risques qu'il ferait courir à tous les pays qui mettraient le doigt dans cet engrenage, c'est-à-dire tant la France que la Russie. Voilà. J'ai pas lu le livre, mais je pense que c'est ça qu'il doit dire, non? Est-ce que vous l'avez lu, peut-être, c'est ça?
J'ai eu le plaisir de le parcourir, mais pas de lire en profondeur.
Okay, ouais.
Ceci étant, oui, il parcourt tellement de sujets qu'il ne se limite pas simplement à la question eurasienne.
D'accord.
Sinon, vous disiez être d'accord avec lui à 99%. Les 1% sur lesquels vous auriez un point de désaccord, ça porterait sur quel point?
Non, alors j'ai pas de point de désaccord spécifique. Je dois avouer, j'écoute ses interviews, j'ai lu ses textes d'Anaïs, donc je suis d'accord sur ce qu'il dit. Je dis 99,99, c'est pour montrer que je suis d'accord sur tout. Bon, c'est pas pour dire 100%, mais j'ai aucun point. Là, actuellement, vous m'en parlez, je n'ai aucun point de désaccord vraiment avec lui. Dans le sens que je ne me semble pas avoir lu ou entendu quelque chose de sa part qui soit dit, tiens, non, c'est pas ça du tout. Non, je pense qu'il est dans le juste surtout. Et voilà, donc, je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur analyste en géopolitique aujourd'hui en France.
Ben, merci beaucoup.
Oui. Merci en effet de cette réponse. Alors j'aurais peut-être une des dernières questions, ce serait, bon évidemment il y a la barrière de la langue qui reste difficile puisque les traductions ne sont pas toujours fréquentes, hein, mais hormis Dugin, donc hormis également d'autres personnes qui sont dans, hormis vous-même j'ai envie de dire, quelle personne ou quel penseur pourriez-vous nous recommander, enfin, si jamais évidemment les textes sont accessibles en français?
Oh là là, accessible en français, malheureusement, il y a peu de choses. Il y a beaucoup d'intellectuels intéressants. Ma prochaine tribune sur Ria Novosti mercredi listera les gens qui sont intervenus au meeting hier et qui sont vraiment des gens sur lesquels, dont les textes sont intéressants. Il y a Sergei Kourganian, Maxime Shevchenko, Nikolai Starikov, Tatiana Tarasova, Mikhail Leontiev. Il y a beaucoup de, en fait, c'est pas traduit en français malheureusement. Il y a et ni peu en anglais du reste. Il y a beaucoup d'intellectuels russes qui ont des visions dissonantes et qui font des propositions intéressantes. Simplement, effectivement, il faut avoir la langue russe pour pouvoir les lire. Mais il y en a beaucoup. Je lisais ma tribune sur RIA mercredi prochain. J'en lis 6 ou 7. La plupart ont des blogs, donc on peut très bien imaginer avec le Google Translator ou alors avec par internet traduire les textes, mais en gros ces gens-là sont intéressants, ouais. Mais sinon, si vous voulez, si les auditeurs veulent, ils peuvent me passer un petit. Enfin, je le répète, mais tous les auditeurs qui écoutent et qui ont des questions derrière peuvent me passer des mails. Hein. Mon mail est public sur mon blog et je serais ravi d'échanger avec eux et de leur envoyer des liens, tours, etc. Il y a moyen de discuter si ça peut les intéresser. Moi, j'ai beaucoup de matériel traduit ou de matériel en russe en général. Je sais où aller chercher. Donc, s'ils ont des questions sur la Russie, avec grand plaisir, ils peuvent m'écrire. On peut poursuivre le contact, en fait.
Très bien, je vous remercie. Alors, je vais repasser la parole à Jean-Marie pour encore une des dernières questions.
Oui, Alexandre, donc si j'ai bien compris ton parcours, tu as d'abord appris le serbe, et puis finalement, après le serbe, le russe. Est-ce que le russe est une langue difficile? Et quelles sont les différences entre les deux langues, en fait, entre la langue serbe et la langue russe?
Alors, en fait, le serbe est une langue slave, ça reste la langue slave la plus pure. Ça reste relativement difficile, mais c'est apprenable. Le russe est différent. La prononciation reste très compliquée. La grammaire y est moins maîtrisable. Donc, on va dire que le russe est un serbe par 4 ou par 5. Je ne dirais pas que le serbe aide à parler russe. Au contraire, quand on parle serbe et qu'on apprend le russe, on est parasité. On a envie de parler serbe et on ne parle plus le russe. Donc, on n'arrive pas à parler russe. Donc, je pense que... Je ne pense pas que les langues slaves en général aident à parler russe. Je pense qu'il vaut mieux apprendre le russe de but en blanc de A à Z et en commençant par le russe. Et il est plus facile après parlant russe d'apprendre d'autres langues slaves. Comme c'est une des plus dures, si c'est la plus dure, je pense que c'est le plus simple, c'est comme ça. Maintenant, ça vaut le coup d'apprendre le russe, vraiment. Parce qu'il est évident que la Russie va... être un pays qui a de l'importance demain. C'est un pays, je ne sais pas si les auditeurs sont déjà allés en Russie, mais ça vaut le coup de faire une visite, même touristique, quelques jours. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à voir et on se sent très bien. Donc, parler russe peut simplifier une visite. Économiquement, pour ceux qui ont des visites de travail à l'étranger, ben, il y a du boulot en Russie. On peut venir en Russie travailler, gagner de l'argent et être tranquille. Et donc, voilà, c'est un pays d'avenir. Donc, je pense que ça vaut vraiment d'apprendre le russe.
D'accord, merci.
Très bien, Huchin Arasho. Je vous laisse un mot de conclusion, sans doute, puisqu'il n'y a plus d'autres questions.
Bon, plus de questions, soit je les ai ennuyées, soit je les ai... ma conclusion sur la Russie, sur l'émission. Alors, ce que je pense, c'est que il y a souvent une incompréhension, une mauvaise compréhension de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui. On fantasme sur la Russie, on l'apprécie, on la déteste pour des raisons qui sont fausses. C'est un pays très complexe. Les Russes sont des gens difficiles à comprendre et à cerner. Mais c'est un pays attachant et la vie en Russie, et là c'est vraiment un message aux Français qui sont en Russie et qui en ont marre d'être en enfin qui sont pardon Français qui sont en France et qui en ont marre d'être en France parce que pour tout un tas de raisons, même s'ils sont attachés à leur patrie, la vie en Russie est profondément intéressante et jamais ennuyeuse et ça reste un far est dans un sens, tout est à faire, tout est faisable, il n'y a pas de limite. C'est assez incroyable de vivre en Russie, c'est une expérience incroyable, donc vraiment qui ont l'occasion, l'énergie ou les moyens, hein, parce qu'il y a aussi ça, c'est intéressant de faire un saut en Russie et de venir voir le pays à l'occasion, comme ça on se rencontrera, c'est intéressant. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller en Russie. Je pense que la Russie est un gros pays d'avenir. Et malheureusement, je pense que la France n'est plus un pays d'avenir, tout du moins dans les prochaines décennies. Les choses ne pourront s'aggraver, à moins qu'un sauveur providentiel prenne le pouvoir et sauve le pays. Mais il y a des raisons d'être négatif et pessimiste, malheureusement. Donc voilà, je pense que j'incite vraiment tous les gens qui écoutent à venir voir en Russie, à se pencher sur la Russie, à commencer à apprendre le russe et à se préparer à soutenir la Russie parce que peut-être que ce pays finalement demain et assez rapidement sera le pôle puissance autour duquel il faudra se tourner et qui défendra les Européens en Europe.
Très bien, bah, il ne reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois chaleureusement. Merci beaucoup Alexandre d'être venu. Alors pour cette horaire un petit peu inhabituelle pour les francophones, parce que c'est 17h, mais bon évidemment je rappelle qu'en Russie il est presque 21h. Hein,
donc, 21h37 déjà, parce que
21h37. Mais d'accord, 4 heures de différence. Ouais. Donc encore une fois, merci. Et puis donc je donne rendez-vous à la semaine prochaine, un dimanche prochain, pour une nouvelle conférence. Voilà, au revoir.
Merci à vous, au revoir.